porter la cour.
La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une qu'une république bien démocratique.
www.pouruneconstituante.fr.
Bonjour, Nathalie sur Radio Doc. Mais je vais laisser la parole aux esprits libres. Pourquoi tu chantes ? Parce que je suis en colère. Pourquoi tu chantes ? Écoute, tu vas comprendre.
Tous les peuples de la terre, unissez-vous dès à présent. Il faut supprimer la misère et partager équitablement. Et partager équitablement. Acceptez-vous que partout des êtres puissent mourir de soif et de faim. Car nous ne serons libres enfin que si chacun redevient son maître. Courage, citoyens, les leurs seront nombreux. Paresse, tristesse, compromission sont des poisons dangereux. Nous sommes sujets de la planète, l'environnement nous donne la vie. Il faudra payer toutes nos dettes et cesser de vivre à crédit. Et cesser de vivre à crédit. On oublie trop que la nature jamais ne nous appartiendra, qu'il faut employer tous nos bras à tenter de la conserver pure. Des armes, citoyens, détruit tout armement, que tous défendent volontairement toute vie dès à présent. Gens de ma galaxie, nous parlons tous le même langage. L'humanité se doit d'être unie. Les couleurs ne sont pas des barrages. Les couleurs ne sont pas des barrages. Un homme, une voix, chacun sa place. Toute la richesse est en nous. Et notre bonheur est au bout. Alors repoussons tous les rapaces, debout les citoyens, éduquons nos enfants, respect, bonté et dignité sont nos biens les plus grands. Solo! Recherchons les fruits, de la sagesse, recherchons les fruits. Entendez-vous dans nos campagnes mugir le racisme et la peur qui viennent jusque dans nos cœurs, nous étouffer sous leurs montagnes. Alarme, citoyens, soyez prêts à lutter. Et tous ensemble.
merci les esprits libres pour cette petite Marseillaise bien différente. Et en fait, cette chronique, je vais la dédier même à notre président pour une constituante, André Bellon. Et c'est encore plus précis parce que c'est suite à la visioconférence de mardi dernier, donc avec notre association pour une constituante, et avec la pertinence d'Anne-Cécile Robert du Monde diplomatique, que je suis partie réviser encore et toujours notre grande histoire de France. Et il va falloir donc réinventer la République en y introduisant un peu plus de démocratie. Bien sûr, notre référence est la Révolution française. Et il existe certains parallèles intéressants entre la Révolution française de 1789 et le contexte politique actuel en France. Si les époques et les circonstances sont bien différentes, les problèmes ont quelque chose en commun, tant dans les tensions sociales, les contestations politiques et les demandes de réforme. Des arguments lors de cette visio ont été posés avec quelques similitudes malgré tout. Alors, je reviens et je compare. 1789. Une des causes principales de la Révolution était les inégalités extrêmes entre les classes sociales. Le tiers-État, représentant la majorité de la population, supportait de lourdes charges fiscales, tandis que la noblesse et le clergé en étaient largement exemptés. Cette injustice a alimenté les débuts du soulèvement. Aujourd'hui, bien que la société moderne soit plus égalitaire, persistent quand même des inégalités économiques, régulièrement dénoncées par des manifestations comme celle d'hier, par exemple, dans toute la France, dont on a très peu parlé, pas énormément de mobilisés, mais quand même. Le mouvement des Gilets jaunes, revenons dessus, en 2018, est un exemple marquant. Ce mouvement est né face à des hausses de taxes et à un coût de la vie élevé, notamment pour les classes moyennes et populaires qui se sentent abusées par les élites politiques et économiques. Autre point commun, le mécontentement envers les élites et la représentation politique. Alors Poupa, tu voulais redire quelque chose?
Oui, je voulais rétablir les choses. En fait, la principale cause de la Révolution française en 1789, c'est la météo. Et je vais m'expliquer, c'est pas une plaisanterie du tout. En fait, suite à une météo exactement comme on vient de la vivre, la récolte de blé a été très faible. Et donc, le pain a augmenté d'une façon, puisque c'est pas les inégalités, puisque que réclamaient les femmes qui sont allées à Versailles, qui ont marché de Paris à Versailles?
Du pain.
Du pain, puisque l'anecdote veut que la reine ait dit « Ah, ils n'ont pas de pain, mais ils n'ont qu'à manger de la brioche ». Je sais pas si c'est vrai, j'y étais pas. Mais toujours est-il que c'était des émeutes de la faim, quoi, vraiment. Et pas, ça, c'est ne pas faire preuve de déterminisme historique, comme aurait dit Karl Marx, que d'y inclure c'est sur les inégalités. Ça, c'est arrivé après. Mais le déclenchement réel de 1789, c'est des émeutes, c'est le pain, voilà. Mmh. Et la cause en est la météo, puisque comme la météo, exactement comme cette année, avait été très mauvaise, la récolte de blé a été mauvaise, et donc il y avait le pain qui a augmenté. Mmh. Et c'est ce qui arrive, car
c'est
je ne sais pas.
Ce qui a fait déborder, disons, le vase. C'est cette.
Je ne crois pas, parce qu'on ne parlait même pas de représentativité et tout. Ils s'en foutaient, les gens de
la
base.
Non, mais c'est avec du recul, peut-être qu'on peut dire les
choses.
Non,
c'est
aussi
la bourgeoisie qui était derrière, qui a récupéré les choses. Et d'ailleurs, les seuls qui ont gagné après la Révolution, ce sont les bourgeois qui ont pris une place énorme au détriment de la noblesse.
Bien.
Voilà, puisque les bourgeois n'étaient pas nobles, mais c'était les premiers commerçants. Donc, je préférais rétablir cette vérité historique.
Ben pourquoi ? Écoute, c'est très bien. Et on va continuer sur le mécontentement. En 1789, je reprends, la Révolution a été en partie motivée par la perception que les élites de l'époque, la noblesse et le clergé, étaient déconnectées des réalités du peuple. Le tiers-État réclamait une meilleure représentation et une voix dans les décisions politiques. Aujourd'hui, Il existe également ce sentiment croissant que les élites politiques actuelles sont éloignées des préoccupations des citoyens ordinaires. Ce fossé entre les citoyens et leurs représentants a alimenté des mouvements populistes et une montée de la défiance envers le gouvernement et les institutions, comme le montrent les dernières élections, où les partis d'extrême droite ont gagné en popularité et où l'abstention a fait un record. Je continue à comparer ce qui est comparable ou ce qui est aussi peut-être en décalé historique. Hein. Je suis d'accord avec toi, Poupa. Mais malgré tout, sur les grandes lignes, en 1789, la Révolution française a conduit à une refonte radicale des institutions et des structures de pouvoir, avec l'abolition des privilèges, la fin de la monarchie absolue et la création de nouvelles institutions démocratiques. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise institutionnelle, bien que le contexte, je te vois lever les sourcils, soit bien différent. Des appels à réformer les institutions se font maintenant entendre. Il y a des débats sur la réforme du système électoral, la remise en question de la place prépondérante du président de la République et le rôle même des parlementaires, qui sont nos représentants malgré tout dans notre système représentatif. Tu voulais rajouter ?
Je voulais juste rajouter que chose qui n'a pas changé beaucoup, c'est que les femmes avaient très peu la parole. Il existe des rapports, des réunions du tiers-état notamment, où on ne donnait pas la parole aux femmes. Donc c'est toujours le même truc, parler de démocratie quand il s'agit que des hommes,
voilà.
C'est un petit souci pour moi.
Je repréciserai peut-être le tiers.
Puisque heureusement, voilà. Nous avons eu Olympe de Gouges qui a dit, puisque, d'ailleurs c'est un de ses arguments, puisque la femme peut aller à l'échafaud, elle doit pouvoir aller à la tribune aussi.
Exactement.
Car on ne donnait pas la parole aux femmes.
Ah oui. Bien, je reprends. Les crises sociales, comme les grèves massives contre la réforme des retraites de l'année dernière, reflètent des tensions autour des réformes jugées injustes. Les mouvements populaires ont un rôle à jouer. Ils sont capables de remettre en cause les décisions du pouvoir en place, parfois avec force et surtout quand on ne les écoute pas. Quand on n'écoute pas, comme on a entendu dire, le bruit de la rue. 1789, la prise de la Bastille par le peuple symbolise le pouvoir du mouvement populaire dans le renversement d'un système injuste, la monarchie. Aujourd'hui, les mobilisations populaires, les manifestations, les grèves et les mouvements sociaux montrent que le peuple français reste engagé, même si on essaie de nous faire croire le contraire. Mais autrefois, il n'y avait pas tous ces grands médias. On nous parle de crise de légitimité du pouvoir. Alors, en 1789, la monarchie de Louis XVI avait perdu sa légitimité aux yeux d'une grande partie de la population, notamment à cause de la mauvaise gestion de la crise financière et du refus des réformes. On est bien d'accord. Aujourd'hui, les gouvernements successifs en France font face à une crise de légitimité, marquée par une défaillance et une méfiance de nos grands partis traditionnels. Il n'y a même plus de majorité. Cela se manifeste par une abstention, comme je l'ai dit plus haut, élevée lors des élections, la montée de l'extrême droite et des partis populistes, et cette fragmentation politique qui rend difficile la gouvernance en France. Tant qu'à la mauvaise gestion, n'en parlons même pas. Bercy a indiqué à l'AFP que l'état des finances publiques était relativement catastrophique. Le déficit public atteint 5,5% du PIB. En 2023, c'est vous dire en 2024, la croissance ralentit et il va falloir faire une économie de 10 milliards d'euros sur le budget de l'État à venir. Alors,
t'es gentil, t'as oublié un zéro.
J'ai oublié un zéro, en
plus. C'est 100 milliards. Enfin, dans ce qu'a présenté le grand Barnier hier, il parle de 60 milliards d'économies.
Bien, merci en tous les cas de remettre les chiffres au goût du jour, Poupa. Alors, ils sont où, les bons gestionnaires du pays ? J'arrive à la conclusion de cette comparaison. Et c'est ainsi que l'a formulé André Bellon, lors de notre visio de mardi soir. Bonjour André, je confirme Et tu l'as bien dit toi-même, la démocratie, dans le système dans lequel on est aujourd'hui, est révolutionnaire. Allons plus loin dans cette vision. La démocratie est perçue comme un moteur de changement social profond. La démocratie, dans son essence même, repose sur la participation populaire, l'égalité des citoyens, la défense des droits et des libertés, ainsi que la possibilité de transformer les structures de pouvoir de manière pacifique et régulière par des réformes et des référendums. La démocratie, appliquée dans sa forme la plus pure, pourrait apparaître, alors oui, révolutionnaire. Il faudrait alors redistribuer le pouvoir en brisant la concentration de ce pouvoir même qu'entre les mains d'une minorité, soi-disant les élites politiques, qui ne répondent même plus aux aspirations du peuple, mais au pouvoir économique. Mais c'est avec l'émergence de nouvelles formes de participation politique, avec la démocratie participative, avec des assemblées citoyennes, avec des mouvements sociaux, environnementaux, qui naissent en dehors des partis traditionnels. Et ça, ça le prouve bien. On est là, Macron. Même si Macron ne le veut pas, nous sommes toujours là, nous, le peuple, les citoyens. La démocratie peut aussi être vue comme un phénomène révolutionnaire, en effet, par rapport à la démocratie représentative classique. Et nous y sommes. Les quelques revendications pour plus de démocratie directe reflètent un désir de renouveler le système démocratique en place. Les différents mouvements, comme j'en parlais, associations, qui se font entendre aujourd'hui, ont besoin d'une plus grande participation du peuple. Il y a un ras-le-bol du système. Nous allons vers une contestation des formes traditionnelles de pouvoir. Et cela pourrait être perçu comme aussi révolutionnaire. Face aux défis contemporains, comme le changement climatique, les inégalités globales, la montée de l'autoritarisme et la crise de confiance dans les institutions démocratiques, certaines voix appellent à une refonte profonde du système démocratique actuel. Cela pourrait inclure des innovations pour faire vivre enfin une démocratie délibérative, mettre en place une assemblée constituante, des assemblées citoyennes. Ces changements, s'ils étaient mis en œuvre, bouleverseraient la manière dont notre société et même les sociétés modernes sont organisées. Ce qui serait perçu, alors oui, comme une révolution dans le cadre des systèmes politiques actuels. Voilà, je vais peut-être revenir sur ce qu'est le tiers-État, puisqu'on a parlé à deux reprises du tiers-État. S'il a joué un rôle central dans le déclenchement de la Révolution française en 1789, composé essentiellement de la bourgeoisie, des artisans, mais aussi des paysans et des ouvriers. Il représentait environ 98% de la population française, mais était largement sous-représenté et exploité dans le système politique et fiscal de l'Ancien Régime. Donc je suis bien d'accord avec toi, Poupa, que tout le monde n'y était pas.
Le tiers-État représentait tous ceux qui n'étaient ni nobles, ni clergés.
Voilà.
Mais dans les députés représentant le tiers-État, on était exactement à l'image de ce qu'est aujourd'hui les représentants à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on avait principalement de la bourgeoisie, des artisans, mais des artisans...
de grosses entreprises.
Voilà, où à l'époque c'était des gros artisans, donc ce qui sont devenus les grosses entreprises,
des
gros paysans, voilà, mais pas des ouvriers, il y en avait quasiment pas. En fait, ce qui s'est produit, c'est que une fois que le processus a démarré avec la marche sur Versailles, puisque plus que la prise de la Bastille, puisque je tiens à rappeler qu'historiquement, pourquoi la Bastille a été prise ? Non pas parce que c'était une prison,
non.
C'était pour aller chercher les armes qui étaient dedans. Et le peuple voulait s'armer parce qu'il avait très bien compris qu'en face, il y avait les armes. Et donc, ils sont allés chercher les armes au centre de Paris à l'époque, qui était la Bastille. D'ailleurs, si mes souvenirs sont exacts, j'en suis pas tout à fait sûr, mais je crois qu'il restait que 4 détenus dans la prison.
Voilà. Alors là, tu vois, je...
Je crois qu'il y avait plus que quatre détenus.
Mais ça, c'est bien que tu le précises.
Mais le but était d'aller chercher les armes.
Et cette comparaison, j'y tenais. Je tenais à la faire. Ça m'a pris pas mal de temps parce que j'avoue que, justement, pour pas rentrer non plus dans trop de précisions, mais pour voir les choses dans sa globalité et faire une comparaison entre 1789 et aujourd'hui.
Alors justement, le coût des armes, c'est très important. C'est pas innocent si j'ai voulu expliquer ce point. C'est que les forces de répression en 1789 n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Et un facteur encore plus important, c'est, comme aurait dit un auteur célèbre, surveiller et punir. Eh bien, la surveillance est telle que maintenant des caméras sont partout. Et donc, ça change considérablement les choses.
Autre temps, autre contexte et autre façon d'agir. Voilà. Et je reviens aussi sur une assemblée constituante parce que dans le cadre de notre association, c'est pourquoi on essaie de se battre. Parce qu'une assemblée constituante, en fait, c'est un organe politique temporaire qui est chargé de rédiger ou de modifier une constitution, c'est-à-dire le texte fondamental qui définit l'organisation des pouvoirs, des droits et les devoirs des citoyens, ainsi que les principes fondamentaux d'un État. Alors la mission d'une assemblée constituante est essentielle dans des périodes de transition politique ou à la suite d'une crise majeure. Et nous y sommes. Et on peut la revendiquer, cette assemblée constituante aujourd'hui. Voilà, avant de vous laisser avec la chanson « Démocratie » de HK, je n'ai pas de livre à proposer, mais un journal, « Le Monde diplomatique », donc qui sort, qui est un mensuel, et plusieurs donc de notre association pour une constituante écrivent régulièrement des articles. Je découvre petit à petit moi-même le monde diplomatique. J'en étais et des articles du monde diplomatique en tous les cas. Et je trouve que voilà, c'est à lire. Il y a des articles excellents et qui ne touchent pas que le problème franco-français.
Ah non, justement, ça parle beaucoup de géopolitique. Le seul reproche que je fais au monde diplomatique, c'est que c'est accessible qu'à une certaine élite intellectuelle, car les articles font souvent référence à des choses que le vulgaire Pékin ne connaît même pas. Donc, comment comprendre quelque chose qu'on ne connaît pas, quoi ? Et c'est le gros problème. Alors évidemment, il faut des publications de haut niveau, mais peut-être qu'un effort de vulgarisation serait à faire auprès du monde diplomatique.
Allez, chers amis du monde diplomatique, un bon entendeur, salut. Et donc je vous laisse avec Démocratie, l'une des dernières chansons de HK.
J'espère qu'il en fera d'autres, parce que c'est le terme dernière chanson qui m'embête toujours. J'ai l'impression qu'il va mourir après. C'est la dernière. Voilà. C'est la dernière chanson.
Ah,
il n'en
oui.
fait plus.
Alors, dans l'espace-temps, n'est-ce
voilà,
pas?
Voilà. La dernière chanson en date.
En date. Voilà. OK. À la semaine prochaine.
Qui défile aux portes du palais. Faut-il qu'on se méfie alors que le peuple a parlé? Les voilà qui s'arrangent selon leur convenance. Voilà qu'on les dérange, voilà encore qu'ils manigancent. Car c'est un jeu de dupes auquel ils nous convient. Tous ceux qui sortent des urnes doivent convenir à leurs envies. Si nous choisissons mal, ils changeront les règles, pour qu'ainsi au final leurs mains ne lâchent pas les rênes. Notre maison
démocratie,
notre horizon
démocratie,
notre raison
démocratie.
On se bat pour
la démocratie.
Notre maison
démocratie,
notre horizon
démocratie,
notre raison
démocratie. on se bat pour la démocratie.
Ils ont le verbe haut et les bonnes manières. Ici, Victor Hugo maîtrise la langue de Molière. L'art de la rhétorique dans leurs plus beaux habits. Parle de république et dîne avec les grands lobbies. Devant les caméras, tenus par leurs amis, ils nous pointent du doigt et nous recouvrent d'infamie. Mensonges et boniments sont le pain quotidien qu'ils offrent aux pauvres gens avalés et tout ira bien. Notre maison,
démocratie.
Notre horizon,
démocratie.
Notre raison,
démocratie.
On se bat pour
la démocratie.
Notre maison,
démocratie.
Notre horizon,
démocratie.
Notre raison,
démocratie.
On se bat pour
la démocratie.
Et moi je fais partie de ce peuple en colère à qui on a promis à peu près tout et son contraire. Je ne peux plus les croire, ils nous ont tant abusés. Ils ne voulaient pas nous voir unis mais toujours divisés. Je suis de ceux qui s'opposent, de ceux qui dénoncent, de ceux qui proposent le chemin de la résistance. Démocratie en ton nom, nous relevons la tête. Nous voilà des millions comme un souffle que rien n'arrête. Notre maison,
démocratie.
Notre horizon,
démocratie.
Notre raison,
démocratie.
On se bat pour
la démocratie.
Notre maison,
démocratie.
Notre horizon,
démocratie.
Notre raison,
démocratie.
On se bat pour
la démocratie.